Identité, territoire et création.
Ça fait plaisir de vous voir. Si vous avez besoin de moi, vous criez mon nom, je serai là.
Le 12 juillet 2007, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le Festival d'Avignon et la Pensée de Midi s'associaient pour proposer deux tables rondes, identité et territoire, identité et création. Grenouille vous donne à entendre en 7 épisodes le contenu de ces débats animés par Thierry Fabre, ainsi que des interviews des intervenants, philosophes, historiens, géographes, metteurs en scène, écrivains et musiciens, réunis en Avignon pour nourrir la question des identités d'une réflexion à plusieurs voix. Sixième extrait des tables rondes Identité, Territoire et Création. Je vous propose maintenant d'écouter les interventions de François Cervantes, auteur et metteur en scène de théâtre.
Alors, je ne vais pas tout de suite me tourner vers Zad Moultaka pour parler du Liban et de ce que disait Abbas Baydoun, mais peut-être me tourner vers François Cervantes sur... Au fond, la même question, par rapport, enfin, si tant est que ce soit une question, ce rapport aux sources, aux héritages, et comment, dans le travail d'écriture ou de mise en scène théâtrale, est-ce qu'il y a place pour cette dimension d'identité, ou est-ce qu'elle est au contraire mise à distance et objet d'une sorte d'inquiétude par rapport à la mise en écriture et au travail sur le texte. François Cervantes.
Oui, d'abord, je voulais vous remercier les trois intervenants, parce que je trouve que les paroles qui ont été dites sont assez rares et
tout à l'heure, dans
la première table ronde. Et j'avais l'impression de je ne disais pas que ce seraient des bons auteurs, ce seraient de très bons dramaturges. C'est-à-dire se retrouver un accompagnement de gens qui plongent dans l'histoire ou la géographie, une réflexion sur la vie sociale et qui la décante petit à petit, et de retrouver des moments où toutes les grandes histoires sont un dépôt de milliers d'histoires orales. Donc de passer lentement de la conversation, puis de la réflexion, jusqu'à des petites histoires. Puis à un moment donné, peut-être un auteur joue le rôle de paratonnerre et écrit une histoire. Et là, c'était de retrouver, donc c'est pour ça que je voulais vous remercier pour ça, de retrouver un moment où on va vers quelque chose, on va vers une fiction. Mais une fiction qui est...
Une fiction du réel, comme on dit dans le documentaire.
Une fiction qui est comme une radiographie du réel, qui n'est pas une invention individuelle, où on est souvent tellement pris dans des situations d'événementiels. Et là, c'est de se retrouver dans quelque chose de plus organique.
Mais il me semble que c'est une démarche qui est aussi largement la vôtre. Moi, j'ai lu ce texte que vous avez écrit, qui s'appelle « Voisin ». Peut-être que ce serait intéressant de raconter comment vous l'avez élaboré, parce que c'est aussi, je pense, en lisant ce texte, on voit bien que c'est au cœur de ces questions d'identité et d'ailleurs de migration dont on a parlé avec Benjamin Sora tout à l'heure.
Oui. Alors, pour répondre à la question de l'identité, la première, avant de dire la question de l'identité, moi, j'ai pas eu l'impression d'être né et d'avoir grandi dans des points saillants de l'histoire, dans des drames ou dans des... Mais dans une espèce de silence, donc les drames, je les ai vécus de manière homéopathique. Et j'ai commencé à écrire, j'ai l'impression, pour apprendre à parler. J'ai vécu 8 ans au Maroc, donc j'ai eu l'impression quand même d'ensuite avoir accès à une langue étrangère, maternelle et étrangère, en arrivant en France. Et petit à petit, je me rends compte que les drames que j'ai vécus, c'est par le silence. Donc effectivement, il y a à un moment donné les drames qui sont tus quand on a accès à l'histoire, plus avec un grand H, au déroulement de l'histoire, et qu'on arrive à faire des connexions avec les petites histoires, c'est un peu le tissu et la doublure, et c'est effectivement le rôle d'enserrer quelque chose qui n'est pas la fiction, qui n'est pas la réalité, mais qui est ce qui est pris au milieu. Et il y a des, moi j'ai été frappé par exemple en Indonésie de voir que des gens qui racontent le Mahabharata pendant une nuit entière peuvent arriver à nommer quelque chose dans la salle, un nom, un événement et tout ça, et repartir dans la grande histoire. Et c'est tout leur travail, c'est-à-dire d'avoir en mémoire cette grande histoire, de la comprendre et de pouvoir parler d'un problème de partage de terre, de jalousie, de rivalité dans un village, et de retourner ensuite à la grande histoire dans des langues qui vont à l'équivalent du latin pour nous jusqu'à l'interpellation de, et cet aller-retour est peut-être plus important que les points extrêmes, c'est-à-dire de comment faire une chaîne qui permet d'aller d'un endroit à un autre.
C'est sans doute cette immense force justement de la fiction et du théâtre au fond de la, la...
Oui, oui. Puis je pense que c'est aussi la question pour parler de l'identité, que j'imagine quelqu'un qui crée commence par la question sourdement posée qui suis-je et s'en va vers la question de l'identité intérieure. Alors le jeu est un autre, avec, où on arrive à... Imaginez qu'au fond de l'espace du dedans, il y a le dehors. C'est-à-dire, ce qu'on vit souvent comme l'intimité, dire sous l'intimité, il y a l'intime qui est partageable, qui est universel. Donc on n'est pas au fond d'une chaussette fermée, où on ferme les maisons, on vit l'intimité et ensuite on va au dehors. Et il n'y aurait que le social et que le déroulement des choses publiques pour organiser notre vie. Il y a le poème est là comme un autre espace public et qui est l'espace du dehors qui s'ouvre au fond du dedans.
Ah, peut-être qu'on peut donner un exemple de cette, de ce que justement de ce rapport au dedans et au dehors par au travers de questionnement de l'identité à partir de ce travail qui s'appelle Voisin.
Oui. Alors Voisin, c'était au départ un travail de commande par des gens qui étaient à Besançon et qui ont installé un théâtre depuis une vingtaine d'années dans un nouveau quartier de Besançon qui est pour l'instant coupé du centre-ville par au moins 2 kilomètres de verdure. C'est-à-dire c'est presque une autre ville. Qui est extrêmement importante et qui au début était construit sur une utopie de mélanger des classes sociales et mélanger des nationalités. Ça a marché pendant un temps, c'est en train de se dégrader. Il y a des gens plutôt relativement pauvres qui viennent toujours des quatre coins du monde et qui vivent dans une tension qui est de plus en plus grande. Ce théâtre est au milieu de ce quartier et ils avaient envie, puisque ça a commencé comme un centre social, un centre de théâtre en prise avec la société, est devenu une scène nationale où des gens venaient du milieu de la création contemporaine et des gens du centre-ville venaient, mais ça ne concernait presque plus le quartier. Et ils avaient envie de faire un retour sur leur histoire. Ils ont interrogé énormément de spectateurs, d'habitants du quartier. Ils m'ont demandé de passer...
qui justement n'étaient plus spectateurs.
Voilà, et de passer à la fiction. Donc j'ai pendant 3 ans... à partir d'enregistrements sonores, je crois qu'il y avait 900 pages de dépôts écrits des témoignages, essayer de me poser la question de comment aller vers une fiction. Et alors j'avais l'impression que c'était double chemin, c'est-à-dire il fallait le temps que je sois atteint, c'est-à-dire que je sois atteint pour que j'écrive sur quelque chose, je ne peux pas écrire sur autre chose que sur moi, sinon je me transforme en espèce de laborantin. Donc il fallait le temps de la fatigue, d'être usé par cette histoire, et puis ensuite, le temps de retrouver le chemin de la fiction à partir de cette chose qui m'avait fatigué. Et la question de passer de la réalité à la fiction, ça a été la question de la langue, c'est-à-dire, est-ce que j'enlève les « e », « bof », « abin », « oui », « quoique », hein, et, ou alors est-ce que je la garde et à comment je m'autorise à couper, trancher, mettre en ordre. Et c'est, je crois, beaucoup la fatigue qui a décidé.
Et ça donne une très belle, je dirais, surrection, émergence de la parole, de la parole de l'autre, de la parole de ceux qui n'ont pas souvent la parole, justement. Et là où se tisse, Jacques Lévy parlait tout à l'heure de comment on fait société, en lisant cette pièce, et j'ai pas vu la mise en scène, mais il y a l'impression que quelque chose d'autre est né à partir de cette parole, à partir de cette pièce, de cette écriture, qui a recomposé le vivre ensemble autour de ce quartier et de ce théâtre.
Alors ce qui était troublant quand on a joué, puisqu'on a joué à la fois à Marseille et puis ensuite à Besançon, on est retourné dans le lieu, la salle était en gros divisée en deux. Il y avait les gens qui venaient voir une création, qui s'appelait Voisin, sachant ou ne sachant pas, mais qui venaient voir une création. Et puis il y a ceux du quartier qui, eux, savaient.
Qui venaient en voisin,
qui venaient assister à ce travail. Et il y avait le plaisir de ces gens-là de se voir, de voir leur histoire qu'à la fois ils reconnaissaient et qu'ils ne reconnaissaient pas. Et puis il y avait cet autre plaisir très troublant des gens qui venaient voir une création et qui d'un seul coup avaient un peu l'impression que les portes du fond du plateau s'étaient ouvertes et qu'ils voyaient le quartier. C'est-à-dire qu'ils étaient venus voir une création là ou ailleurs. Ils auraient été dans le théâtre du centre-ville si ça avait été là. Ils allaient voir une chose qui était dans un lieu, mais le lieu était anecdotique. Et d'un seul coup, il y avait un arrêt, c'est de leur dire l'endroit où vous êtes venus n'est pas anecdotique. Ah, c'était un moment de représentation très troublant pour ça. Et le parallèle qu'il y avait, c'est que j'ai monté la pièce avec des gens avec qui je travaille de manière continue depuis 4 ans, une espèce d'atelier ouvert sur les bases de travail avec un acteur. Donc il y avait ce parallèle entre la communauté, le voisinage de travail, et la communauté, le voisinage de vivre, le travail de vivre.
Et de ce point de vue, sans arrêt, j'ai un sentiment, à lire la pièce en tout cas, que cette question d'identité est présente, en tout cas dans les paroles que vous avez recueillies, à partir duquel vous avez réécrit un texte et une pièce forte.
Oui, oui, oui. Ben, j'avais lu une fois la question d'identité, parce que c'est une inconnue, et que plus on avance, et plus elle s'éloigne. Donc,
est-ce après, qu'on a la ligne d'horizon, quoi. Plus on s'en approche,
oui,
plus elle s'éloigne.
C'est une chose qui est... On court vers elle, et finalement, elle revient par... C'est pour ça que je parlais du dépôt des histoires orales. Ça n'est jamais clair, ça n'est jamais une chose affirmative, c'est un nuage. Et le fait de courir vers elle, on devient une réponse, mais on ne l'a jamais. On a l'impression que c'est plutôt l'identité qui nous nomme. Hein. C'est-à-dire, étant auteur, évidemment, on rentre dans le territoire de la langue, donc on se rend compte petit à petit que c'est la langue qui a déjà des histoires inscrites. Et que c'est elle qui nous désigne un endroit petit à petit. Le retravail de l'écriture est beaucoup plus passionnant que le travail d'écriture. Le fait de trouver la structure et la sculpture d'une phrase, on a l'impression que le sens émerge de la langue.
Mais il me semble que ce que vous appelez le nuage, le fait que cette parole ait été mise en scène, a changé la donne dans le lieu, du quartier.
Oui, enfin, en tout cas pendant... la semaine où on était là, il s'est passé des choses très troublantes. Le directeur technique qui vit depuis le début est monté sur scène, a osé, sans rien dire, il n'a pas troublé, mais il s'est senti autorisé à lui venir, il est venu réparer une ampoule hein, simplement, mais venir dans cet espace de fiction. Moi, c'est une des choses qui m'a le plus touché. Après, les répercussions, je ne sais pas trop, je pense que de toute façon, on ne voit jamais les répercussions. Elles sont toujours, elles sont jamais de cause à effet directement, donc... Il y a eu des événements pendant le moment où on a représenté, et avec les personnes du théâtre. Mais pour moi, ça a été une des seules fois où j'ai l'impression de me poser, d'avoir la chance de pouvoir me poser cette question du rapport à un lieu réel, des noms réels, des témoignages réels, et de tenir l'endroit de la fiction et d'une construction dramatique.
Alors, est-ce qu'il y a eu des expériences comparables dans ce que vous avez écrit, des démarches où justement ces questions d'identité, que ce soit l'identité propre à votre trajectoire ou d'identité, ont été posées ?
Dans ma démarche ?
Oui.
Oui, régulièrement. Je crois que c'est un fil rouge. Vraiment, j'ai travaillé avec des gens qui sont socialement déclarés comme des handicapés mentaux, qui ont formé une troupe. Ce moment-là, il était impossible de faire le moindre écart vis-à-vis de leur identité, c'est-à-dire de fantasmer sur eux au niveau de la puissance vocale, du rapport. Donc, ça a été d'écrire une fiction qui était leur réalité. Comme dans Voisin, où c'est une fiction, mais elle est la plus serrée possible par rapport à la réalité. Et notre moment où je suis retourné en classe, parce que j'ai des souvenirs très troubles de la classe, donc je suis retourné passer un an en classe de 4e pour revivre l'ennui, les sonnettes, les matières. Je ne comprenais pas pourquoi on avait telle matière et pas telle autre. Je crois qu'aucun professeur ne me l'a jamais dit en commençant. Je suis passionné par, vous avez besoin. Alors, de retraverser cette zone-là, et il en est sorti un texte, une nouvelle, puis une adaptation théâtrale. Alors c'est des moments.
C'est une sorte
où...
de reconstruction d'identité personnelle, d'une certaine façon.
Oui, 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 qui est à la fois à mi-chemin entre la plongée dans mon histoire et pourquoi tel autre que je rencontre me trouble. Parce qu'au théâtre, on n'est quand même pas protégé par la rencontre. C'est-à-dire qu'on est exposé au fait que n'importe quel jour, on peut rencontrer quelqu'un qui va nous faire faire un virage. Parce qu'il y a fascination, parce qu'il y a intérêt. Alors, le dedans vient souvent du dehors aussi. C'est-à-dire qu'on rencontre quelqu'un et d'un seul coup, il se met à faire résonner quelque chose qu'on n'avait pas trouvé soi-même.
crois que ce serait aussi intéressant de souligner le rapport de l'identité de la violence. Peut-être que c'est François Cervantes, j'aimerais peut-être lui poser cette question, à moins qu'elle ne le concerne peu, je ne sais pas, mais des identités blessées, des rapports à l'identité, à la violence, pour refaire un tour sur le Liban avant de vous laisser la parole et qu'on puisse gentiment aller déjeuner. François Cervantes.
J'étais assez touché par ce que tu disais tout à l'heure, de dire le théâtre n'est pas fait pour remettre de l'huile sur le feu. Et ça pose une question de structure dramatique et de comment réussir à cautériser, ou ça ne veut pas dire se détourner d'eux, mais comment consumer quelque chose qui est déjà ouvert. Et je dis ça parce que je pense que c'est vrai, on peut dire qu'on peut être choqué, dérangé, etc. Mais il faut d'abord qu'il y ait un lien pour ça. Et je trouve au théâtre, en tout cas, on ne peut pas éviter la question du lien. C'est-à-dire que c'est plutôt la soirée qui est une œuvre que quelque chose de préalable. Donc c'est de la responsabilité des acteurs, du plateau, et qui est dans la salle et comment ça se passe n'est pas une conséquence culturelle ou événementielle. C'est le moment présent qui se joue. Donc l'endroit de la violence ou de l'identité, elle est d'abord dans la question de poser... L'altérité, c'est une histoire personnelle. Mmh. Et à partir de ça, beaucoup de violence se défait. C'est à partir du moment où on se sait dans une déchirure, on se sait dans un mystère et qu'on se sait dans un brouillard, le rapport à l'autre est un peu différent. C'est-à-dire c'est un autre, mais c'est aussi le même, en tout cas le même problème. Et je trouve que... Une des vocations de l'écriture, c'est déjà que... Je crois que c'est Peter Hanke qui, j'avais lu une fois, il disait que c'est étrange comme les souvenirs lus prennent la place des souvenirs vécus. Moi, je l'ai expérimenté, y compris avec ma mère, pour qui j'ai écrit, qui maintenant me parle du passé avec des lignes du livre que j'ai écrit. C'est très troublant et très angoissant, mais bon...
Comme dirait Paul Ricoeur, l'identité est narrative. Elle s'écrit.
Oui, elle s'écrit. Et je trouve l'écriture est déjà à la naissance de cette déchirure, de cette altérité. Donc le fait même de la création commence de manière sensible et sensuelle par le fait d'éprouver l'altérité. C'est-à-dire on peut établir sur un plateau un rapport d'admiration ou un rapport de lien, de relation.
Il me semble que c'est justement la place et le rôle notamment du théâtre, puisque nous sommes dans un festival d'Avignon, dans un grand lieu de théâtre.
Après cet extrait des Tables rondes animées par Thierry Fabre, voici un court interview de François Cervantes, auteur et metteur en scène, enregistré en voiture de retour d'Avignon. François Cervantes, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'on a une perception différente de l'identité quand on est nomade ?
Sûrement, mais je n'ai jamais vécu l'expérience du nomadisme entièrement. J'ai l'impression que c'est une identité qui ne correspond pas au voyage et qui c'est à la fois une philosophie très concrète qui est liée à un mode de vie. Nomadisme, c'est en dehors d'un point fixe, c'est pas d'aller de là à là, de voyager de temps en temps. Mais je pense que l'identité nomade, c'est une identité qui est radicalement différente et complémentaire de l'identité sédentaire.
Est-ce que du coup, tes voyages ont modifié ton identité ou ta perception de l'identité, à défaut de nomadisme et à propos de voyage ?
En tout cas, j'ai l'impression que ça m'a
ça m'a poncé, ça m'a demandé de me simplifier et ça m'a fait comprendre que des choses que je croyais authentiques étaient uniquement des costumes, des choses culturelles et dont je pouvais me débarrasser. Et donc c'est un processus, c'est-à-dire une fois qu'on s'est rendu compte de ça, on imagine que là où on en est, ça n'est encore qu'une chose qui doit partir aussi. Donc ça met en mouvement le voyage, enfin ça c'est sûr, mais ça met en route dans quelque chose de soi. Et puis ça, par exemple le voyage que j'ai fait en Inde, jamais j'aurais pu imaginer une réalité aussi dense, de cruauté, de beauté. Donc c'est de découvrir qu'il y avait des endroits géographiques qui existaient sur la planète qui étaient plus incroyable que des choses que je pouvais imaginer. Ça renverse un peu les valeurs.
Je suis ce que tu ne sais pas que tu es. C'est une phrase de toi, François. Est-ce que ça signifie que l'identité, elle se révèle par les autres ?
C'est-à-dire, je crois qu'on a des chemins, on a tous des chemins particuliers pour aller vers l'universel. Je crois qu'il y a un mode de communication avec l'autre qui commence par le fait d'aller vers soi. C'est un chemin qui se fait, mais le rapport à l'autre, je crois que c'est comme l'histoire du pouce et de l'index, c'est qu'il y a des choses qu'on arrive à saisir dans le rapport à l'autre qu'on ne peut pas saisir dans le rapport à soi. Et qu'il y a tout un échange entre la nécessité de se connaître ou d'aller se chercher ou se découvrir et du rapport à l'autre. Donc je crois que le rapport à l'autre est entièrement indispensable pour se connaître soi-même. Mais ça peut être aussi une grande distraction. L'autre, c'est à la fois la peur, c'est une manière de se fuir soi-même, c'est de la curiosité, c'est exotique, c'est intéressant, c'est tellement violent que ça capture toutes les énergies. Enfin, voilà. Mais en même temps, le rapport à l'autre, c'est des fois quelque chose qu'on ne peut remplacer par rien d'autre.
À demain, à la même heure, pour le 7e et dernier épisode de cette série d'émissions autour des questions d'identité, de territoire et de création. Vous y entendrez Zad Moultaka, musicien, accompagné de Catherine Payon, fondatrice du label L'Empreinte Digitale.